France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Voici un livre que même son auteur n'aura jamais eu le temps de lire en entier. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est pourtant un livre achevé, imprimé, que l'on peut tenir entre ses mains, comme n'importe quel livre. Mais je maintiens, même son auteur, celui qui l'a écrit, conçu, créé, n'a jamais eu le temps de le lire en entier. Et pour cause, il le précise lui-même en préambule, ce livre fournit de la lecture pour près de 200 millions d'années. On aura peut-être deviné qu'il s'agit des 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, paru le 7 juillet 1961 chez Gallimard. Un livre composé de 10 sonnets de 14 alexandrins, alexandrins que grâce à un habile massicotage, on peut assembler entre eux comme bon nous semble et composer ainsi 10 puissance 14 sonnets, soit 100 000 milliards de sonnets. Paru quelques mois après la fondation de l'ouvroir de littérature potentielle, l'Oulipo, par le même Queneau et son ami François Le Lyonnais, ce livre constitue à la fois le premier ouvrage de poésie combinatoire et la première œuvre de littérature potentielle concertée. En 1962, Raymond Queneau s'entretenait avec Georges Charbonnier pour 12 entretiens diffusés sur France 3 Nationale. Dans les 9e, 10e et 11e volets de cette série, il était question des 100 000 milliards de poèmes, puis de l'Oulipo en général, de sa fondation, de ses méthodes, de ses ambitions et de ses premiers travaux, dont un choix venait de paraître dans le dossier 17 des cahiers du collège de pataphysique auquel l'ouvroir était rattaché.
Entretien avec Raymond Queneau, une émission de Georges Charbonnier, texte lu par Michel Bouquet.
Les derniers entretiens de cette série d'émissions seront consacrés à des travaux récemment publiés par Raymond Queneau, et notamment au livre intitulé « 100 000 milliards de poèmes ». Ce livre est fort important car il marque l'introduction de l'organisation systématique dans la littérature. Certes, Raymond Queneau a introduit l'organisation dans ses romans il y a longtemps déjà. Il en a parlé devant ce micro. Mais cette organisation avait échappé à la critique qui ne l'avait pas relevée. Elle avait échappé au lecteur. L'organisation de 100 000 milliards de poèmes n'a échappé ni au lecteur ni à la critique. Et le succès de l'ouvrage a inquiété beaucoup d'esprits, en raison même de cette organisation. On sait que le livre, s'il se présentait comme tous les autres livres, serait une mince plaquette de 10 feuillets. Sur chaque feuillet figurerait un poème, un sonnet. On serait en présence d'un recueil de 10 poèmes, c'est-à-dire, même pour les amis de la poésie, un ouvrage bref et vite lu. Souvent relu peut-être, mais chaque lecture brève, le temps de lire 10 sonnets. 13 coups de massicot, disons 13 coups de ciseaux, suffisent ? On suffit à faire de cet opuscule poétique le livre le plus long du monde, celui que personne n'aura le temps de lire, ni le lecteur, ni l'auteur, le livre le plus inattendu, le plus individualisé, car personne ne le lira jamais comme les autres, le livre dont le texte change avec chaque lecteur. Le livre dont chaque lecteur tire au sort le texte pour le lire. Le livre dont chaque lecteur peut, en écartant le tirage au sort s'il en décide ainsi. Le livre dont chaque lecteur peut composer le texte à son gré en accueillant, en retenant ou en écartant tel ou tel vers. Car il y a 100 000 milliards de façons possibles de lire ce livre. 13 coups de ciseaux ont suffi. 13 coups de ciseaux. Un sous chaque vers, en respectant la reliure. Ainsi, tous les feuillets demeurent-ils assemblés. Ainsi, chaque vers est-il libéré. Ainsi peut-on lire le premier vers du premier poème, puis le deuxième vers du 8e poème, par exemple, puis le 3e vers du 3e poème, etc. Ainsi peut-on lire 100 000 milliards de poèmes qui tous ont une individualité poétique. Raymond Queneau, comment avez-vous été amené à écrire votre dernier livre, 100 000 milliards de poèmes ?
Amené, ça, je ne sais pas. C'est un projet que j'ai eu pendant longtemps et que j'ai fini par réaliser, c'est-à-dire d'écrire 10 poèmes qui puissent, enfin 10 sonnets, qui puissent servir de base à de multiples combinaisons, et très exactement à 100 000 milliards, comme le dit le titre. Alors ceux des sonnets qui sont tous faits sur les mêmes rimes, pas sur les mêmes mots, ce ne sont pas des mots rimés, mais sur les mêmes rimes, et la structure grammaticale de chaque sonnet est la même, de façon qu'il y ait quand même une certaine cohérence dans la grammaire, enfin, sinon dans le sens.
C'est-à-dire que lorsque l'on remplace un vers d'un sonnet par un vers d'un autre sonnet, les enchaînements demeurent.
C'est cela, oui, soit les enchaînements de propositions, soit par exemple les accords du masculin, du féminin, etc.
Que vous avez respecté également.
Oui, oui. Et chaque sonnet a aussi, enfin, un sens en lui-même. Enfin, c'est un sonnet qui est fait pour être également lu tout seul, enfin, indépendamment, enfin, des combinaisons dont il peut être la source.
Le roi de la Pampa retourne sa chemise pour la mettre à sécher aux cornes des taureaux. Le corn-beef en bois tempeste la remise et fermente de même et les cuirs et les peaux. Je me souviens encore de cette heure exequise. Les gauchos dans la plaine agitaient leurs drapeaux. Nous avions aussi froid que nus sur la banquise lorsque pour nous distraire y plantions nos tréteaux. Du pôle à Rosario fait une belle trotte, aventures on eut qui s'y piquent, s'y frottent, lorsqu'on boit du maté, l'on devient argentin. L'Amérique du Sud séduit les équivoques, exalte l'Espagnol les oreilles baroques, si la cloche se tait et son terlin tintin.
Quelle était l'origine, quelle a été l'idée origine, quelle a été la première permutation que vous avez entrevue et qui vous a conduit à écrire? Je sais que j'ai dit mener tout à l'heure avec une certaine maladresse, maintenant je vois que je dis conduit, ce qui n'est pas mieux.
Oui, je ne sais pas, j'ai eu l'intention de faire cela, ça m'a été plus ou moins inspiré, comme je le dis d'ailleurs dans la préface, par un livre d'enfant qui s'appelle Tête folle, qui consiste à des figures de bons hommes, enfin de personnages coupés en trois, enfin il y a la tête, le corps, les jambes, alors on peut intervertir et fabriquer enfin des personnages plus ou moins bizarres ou drôles. Et alors c'est parti de ce modèle enfin que j'ai fait ces sonnets. Alors là naturellement il y a 14 au lieu de 3 sections, enfin il y a 14 lamelles enfin ou volets, chacun comprenant un vers.
Et 10 sonnets.
Et 10 sonnets.
Ce qui fait 100 000 milliards par conséquent.
Ce qui fait 100 000 milliards. 10 puissance 14, oui, puisque le premier, il y a 10 premiers vers qui peuvent se combiner avec 10 seconds vers, ça fait 100 combinaisons, 1000, 10 000, etc. Enfin, jusqu'à 10 puissance 14.
Du jeune avantageux, la nymphe était prise. D'aucuns par-dessus tout prise les escargots. Des êtres indécis vous parlent sans franchise. On espère toujours être de vrais normaux. Quand on prend des photos de cette tour de Pise qui se plaît à flouer de pauvres provinciaux, il grelottait le pauvre au bord de la Tamise que les parents féconds offrent au pur berceau. Le généalogiste observe leur bouillotte. Le chat fait un festin de tête de linotte lorsqu'on revient au port en espiant un grain. Frère, je te comprends si parfois tu débloques. Frère, je t'absoudrai si tu m'emberlucoques. Le métromane à force incarne le devin.
Vous avez écrit le premier livre que aucun homme n'aura jamais le temps de lire pendant sa vie.
Ah bien oui, en effet, oui, non seulement l'homme, mais peut-être même l'humanité. Oui, puisque ça doit faire, en allant vite, enfin, ça fait pour 200 millions d'années de lecture.
Pour un seul homme qui lirait 24 heures par jour?
Oui, oui, ou 8 heures par jour, moi je ne me souviens plus si c'est 24 ou 8 heures par jour, mais enfin lisant beaucoup.
Donc, à la lettre, en 10 pages, le livre le plus long du monde.
Et oui, oui.
Le livre que aucun lecteur ne lira jamais.
Oui.
Et que l'auteur n'a pas lu lui-même.
Exactement, oui.
Dont
oui.
L'auteur connaît une combinaison parmi les 100 000 milliards et puis celle qu'il a pu réaliser au hasard.
C'est ça, que j'ai pu essayer, enfin, à titre expérimental, enfin, pour pour voir si ça fonctionnait, enfin, si le système fonctionnait.
Et alors, techniquement, comment a été réalisé le livre? Cela a dû poser des problèmes assez sérieux.
Moi, je le voyais d'abord fait sur anneaux, enfin, comme ce livre pour enfants, là, de Tête folle, qui est fait sur des anneaux, mais ça impliquait un certain flottement, enfin, les petites lamelles auraient chevauché. Alors, on a adopté finalement une sorte de pince, enfin, un système de brochage qui permet le maniement des petites lamelles, enfin, sans que ce soit des anneaux. Techniquement, je ne sais pas exactement comment c'est fait. Enfin, ça ressemble aux anciennes machines des tickets de métro.
Les tickets d'autobus.
Les tickets, oui.
De tramway.
Oui, c'est ça.
Les grandes.
Oui, il y a une pince qui retient des lamelles, enfin, des petits morceaux de papier. Mais elles ne sont pas d'ailleurs découpées jusqu'au bout. Elles restent quand même attachées à une marge. Enfin, je pense que ça fonctionne comme ça.
Ça fonctionne très bien. Personnellement, j'ai essayé de voir comment faire pour trouver un système. Et j'ai constaté que si on ouvrait le livre et qu'on le retourne, en enfonçant une aiguille à tricoter, par exemple, entre les lamelles, et en la faisant jouer un peu à gauche, un peu à droite, on obtient...
C'est ça,
par conséquent, un parcours tout à fait aléatoire, et après, enfin, aussi aléatoire que possible. Et puis, il ne reste plus qu'avec cette aiguille à tricoter, à maintenir les lamelles en place, et on peut lire le sonnet que l'on a composé dans l'œuvre de Raymond Queneau, car c'est moi qui compose mon sonnet dans l'œuvre de Raymond Queneau.
C'est ça, oui.
Autrement dit, la collaboration entre l'auteur et le lecteur est aussi, pour la première fois, plus grande.
Eh oui, oui, en effet, le lecteur est actif, mais c'est pas... on peut dire que le lecteur est toujours actif par le phénomène de la compréhension, mais là, il a aussi une activité plus grande que celle de tourner des pages qui ne bougent pas de place, qui ne changent pas de place.
Le marbre pour l'acide est une friandise. D'aucuns par-dessus tout prisent les escargots. Des êtres indécis vous parlent sans franchise. Qui sait si le requin boulotte les turbots? Et pourtant, c'était lui le frère de Feintise. On prépare la route aux pensées sépulcraux. Un frère même bas est la part indécise. La mythe a grignoté tissu, os et rideau. Le généalogiste observe leur bouillotte. Le lâche peut arguer de sa mine palote. Les croque-morts sont là pour se mettre au turbin. Cela considérant, ô lecteur, tu suffoques. Tu me stupéfies plus que tous les ventriloques, mais rien ne vaut griller le morceau de boudin.
En voyant votre livre, j'ai songé à certains morceaux de musique composés au cours des dernières années où un assez large choix était abandonné par le compositeur à l'interprète.
Ah, oui,
qui pouvait prendre la variation 1 ou la variation 25 et enchaîner le numéro 2 avec le numéro 7 ou le numéro 7 avec le numéro 23. Il pouvait faire des enchaînements relevant entièrement de sa volonté. Mais tout de même, le nombre des combinaisons possibles n'est pas très grand. En tout cas, même s'il est très grand, je n'ai pas cru remarquer que l'interprète s'abandonnait ou avait la faculté de s'abandonner à une très grande latitude, à une très grande liberté lorsqu'il était au concert. Tandis que là, au contraire... comme ce livre, je suis supposé le lire quand je suis seul, la liberté est complète et très grande. Est-ce la première fois dans votre esprit qu'on applique une structure mathématique à la réalisation d'un livre?
À ma connaissance, oui. Quoi qu'il y ait eu, à l'époque des grands rhétoriqueurs, bien au Moyen-Âge, il y a eu des réussites dans ce genre combinatoire, enfin de... Alors, d'employer toutes les lettres de l'alphabet dans un même vers, par exemple, ou bien de s'abstenir de telle ou telle lettre dans un poème. Je suis resté, toujours au stade un peu, je ne dirais pas de l'amusement, mais c'est très fragmentaire.
Dans un de vos livres, vous avez déjà signalé d'ailleurs que la construction de certains de vos romans, c'est déjà une construction mathématique.
Oui, ça je reconnais, c'est peut-être un travers chez moi. J'ai toujours un certain faible pour les combinaison, en effet, plus ou moins mathématique. Dans les romans, je pensais qu'il était inutile que cela soit manifeste. C'est une aide pour moi, enfin, une aide dans l'écriture. Tandis que là, dans ces...
Ah oui, dans Le Chien d'or, je ne vois pas.
Oui, je l'espère. Tandis que dans 100 000 milliards de poèmes, tout au contraire est basé sur cette
combinatoire apparente.
Oui, c'est ça, oui. Tandis que dans les romans, je suis efforcé que cette combinatoire soit cachée. D'ailleurs, dans mes derniers livres, cette combinatoire n'existait plus beaucoup. Mais dans les autres, en effet, même les personnages, c'est pas mal. Sorte de ballet, enfin ils entrent, enfin, ils arrivent périodiquement, bien suivant des rythmes qui étaient préparés.
Et que vous déterminiez, est-ce que vous faisiez un schéma?
Oui, j'ai des schémas en effet, je travaillais sur des schémas, des entrées, des sorties, des scènes, des accords de lieu, etc. C'est surtout dans Le Chien d'or, pratiquer ça, c'était tout à fait méthodique, enfin systématique. Ensuite, je suis un petit peu, je dirais pas libéré de ça, mais enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose que le... Je ne sais pas si c'est tout à fait comparable, cette aide à l'écriture, enfin, la construction d'un roman, à la réalisation d'un roman, avec une chose comme ce livre-là, des 100 000 milliards de poèmes, qui est fait en effet systématiquement pour voir quelle est la contribution enfin, de la combinatoire à l'activité poétique et à la sensibilité poétique, du lecteur, naturellement.
C'était à 5 o'clock qu'elle sortait, la marquise. Ce faire, il pourrait bien que ce soit des jumeaux. Il se penche et alors, à sa grande surprise, des narcisses on cueille, ou bien on est des veaux. Du voisin le papou susote l'apophyse. Quand se carbonisait la fureur des châteaux, un audacieux baron empoche tout assise, lorsque vient le pompier avec ses grandes eaux. Du Gange au Malabar, le lore anglais azote, comme à Chandernagore, le manant sans la crotte, lorsque Socrate mort passait pour un lutin. Les rapports transalpins sont-ils biunivoques? Les Indes ont assez sans ça de pendeloques. Le Beaune et le Chianti sont-ils le même vin?
Mais ces travaux sont, je le suppose, à l'origine de travaux purement mathématiques appliqués à la littérature, auxquels vous vous livrez.
Ça n'est pas isolé et dans les préoccupations de certains de mes contemporains, enfin, qui je suis associé dans une sorte de groupe de recherche qui est intitulé Oulipo. Oulipo, c'est-à-dire ouvroir de littérature potentielle. Alors, c'est qui a été fondé par Le Lyonnais. J'avais écrit à ce moment-là 5 ou 6 des sonnets, enfin des 100 000 milliards de poèmes, et j'hésitais un peu à continuer, enfin je n'avais pas beaucoup le courage de continuer, en fait, parce que plus ça allait, plus c'était difficile à faire, naturellement. Et puis alors, j'ai rencontré Le Lyonnais, qui est un ami, qui m'a un jour proposé de faire une sorte de groupe de recherche, en fait, de littérature expérimentale. Alors, ça m'a encouragé à continuer mes sonnets. Ce recueil de poèmes est en quelque sorte la première manifestation concrète, enfin, de ce groupe de recherche, et alors d'autre part, nous sommes réunis à plusieurs, nous tenons des séances de travail, enfin, pour rechercher, en fait, tout ce qu'il est possible de faire dans le domaine, dans ce domaine-là.
Est-ce qu'il est possible de vous demander quels sont les membres de ce groupe de recherche? J'entends que, lorsque vous dites Oulipo, il y a
oui,
une volonté d'anonymat, comme dans Bourbaki,
oui,
mais en fait,
oui,
on finit par savoir qui oui. est Bourbaki.
Oui, bien
alors,
sûr.
Alors, qui est Oulipo?
Eh bien, d'abord, il y a Le Lyonnais qui en est le fondateur, enfin, moi-même qui en suis le co-fondateur. Et alors, il y a Albert-Marie Schmitt, enfin, qui, comme vous le savez, est un grand spécialiste. C'est à lui que l'on doit la dénomination même du groupement. Parce que nous faisons aussi des recherches historiques, enfin, sur tout ce qui est comparable. Enfin, justement, on a cherché à faire un inventaire de ces vers, soit dépourvus de telles lettres, enfin, tout ce qui a été inventé, notamment par les grands rhétoriqueurs, comme complication, quelquefois extrêmement arbitraire, enfin, de la poésie. Enfin, arbitraires qui paraissent arbitraires. Il y a un mathématicien qui est Claude Berge, Brafford, qui fait partie de leur atome, qui s'occupe justement d'information et de documentation à leur atome, Jacques Benz, qui est le secrétaire, et puis deux représentants du collège de pataphysique, enfin Noël Arnaud et Latisse, parce que nous sommes rattachés au collège de pataphysique, et puis trois autres membres qui sont des poètes et des écrivains, qui sont Lescure, Duchâteau et Queval. Puis nous avons des correspondants étrangers. Et puis alors nous nous sommes mis aussi en relation avec, d'une part, Barbeau et d'autre part, le Miam, qui font des recherches également, enfin, dans ce genre combinatoire. Alors eux, les musiciens, ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils ont pu utiliser des machines complexes et perfectionnées, enfin des machines électroniques, tandis que nous n'en sommes encore qu'à des moyens extrêmement rudimentaires.
C'était le 9e volet d'une série de 12 entretiens de Raymond Queneau menée par Georges Charbonnier, diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 30 mars 1962. Tout de suite, le 10e épisode de cette conversation.
Entretien avec Raymond Queneau, une émission de Georges Charbonnier, texte lu par Michel Bouquet.
Au cours de la précédente émission, Raymond Queneau, vous avez parlé de votre livre « 100 000 milliards de poèmes » et vous avez rattaché la naissance de ce livre aux travaux de Lou Lippo, c'est-à-dire de l'ouvroir de littérature potentielle qui réunit un certain nombre d'écrivains, de linguistes et de mathématiciens. Nous sommes donc en présence d'un phénomène tout à fait neuf en littérature et que l'on pourrait appeler l'introduction de la pensée organisatrice dans la littérature, avec une nuance supplémentaire, l'introduction systématique de la pensée organisatrice dans la littérature. En effet, une certaine planification a toujours participé à l'élaboration du phénomène littéraire, mais c'est à notre époque que l'accent est mis de façon particulière sur cette planification elle-même. Certes, elle demeure organisatrice, mais elle devient, en tant qu'organisation, plus qu'un support, et peut-être est-elle appelée à être seule constitutive de l'œuvre littéraire. Or, Lou Lippo vient de publier le dossier 17 dans les cahiers du Collège de pataphysique. Dès que l'on ouvre ce dossier, un mot frappe, le mot « travaux ». Là encore, nous sommes amenés à constater l'existence d'un phénomène caractéristique de notre époque. En effet, dans les esprits, le mot « travaux » n'est pas naturellement associé au mot « littérature », qui est habituellement associé, au contraire, à des mots tels que « lyrisme » ou « inspiration » ou « recherche », qui conduirait à travaux dans le cas de la littérature si mal nommée d'avant-garde. Le dossier 17 ne peut évidemment être analysé même rapidement en une seule émission de 20 minutes. Je voudrais donc vous demander de présenter quelques-uns des travaux dont ce dossier contient un compte-rendu et de définir brièvement les méthodes mises en œuvre par les membres de Lou Lippo. Il faut souhaiter que tous ceux qui s'intéressent aux phénomènes littéraires prennent au plus vite connaissance du dossier 17, qui est une des meilleures introductions à la littérature contemporaine. Raymond Queneau, comment les premiers résultats des travaux de Lou Lippo se présentent-ils?
Oui, c'est le dossier numéro 17 des cahiers du Collège de pataphysique, et le numéro est intitulé « Exercice de littérature potentielle » et la bande est ainsi rédigée, patalégomène à toute poétique future qui voudra bien se présenter en tant que telle.
C'est ce qui me paraît tout à fait adéquat, enfin, puisqu'il s'agit de travaux de préparation et de recherche, enfin, à des possibilités de poétique autres que ceux qui existent actuellement, peut-être.
Oui, qui voudra bien réserve.
Oui, qui voudra bien. Maintenant, peut-être il n'y a aucun résultat d'ordre esthétique proprement dit, enfin d'ordre poétique proprement dit. Mais il me semble que c'est quand même possible parce que enfin, toutes les poétiques précédentes ont toujours quand même été fondées sur des bases expérimentales. Enfin, quand on a créé l'Alexandrin, ça consistait quand même à donner une prééminence au chiffre 12 sur les autres. Et ensuite, quand on a abandonné les vers réguliers pour le vers libre, c'était aussi pour des raisons extra-poétiques, c'est-à-dire de poétique au sens où on peut dire, enfin, science de la poésie. La découverte de l'Alexandrin, c'est un peu, ou par exemple même le sonnet c'est encore plus significatif, puisque là c'est vraiment toute une construction qui peut paraître totalement arbitraire et très comparable à, je sais pas, à des jeux comme les mots croisés, etc. Et c'est finalement, enfin, ça a été une des formes d'expression favorite, enfin, de la poésie française pendant 300 ans.
Et que peut-on trouver dans ce dossier 17?
Dans ce numéro, il y a d'abord une présentation du groupe de travail qui s'appelle Loulipo, c'est-à-dire ouvroir de littérature potentielle. Et cette présentation est faite par l'inventeur, dirais-je, de ce groupe, c'est-à-dire François Le Lyonnais. C'est lui qui a eu l'idée de former ce groupe de travail qui a été fondé et dont je suis, enfin, le cofondateur avec Le Lyonnais. C'est donc lui qui présente le groupe, qui est suivi par des rappels d'essais anciens, comme par exemple la machine de Swift, qui permettait, en fait, dans le voyage à Laputa, qui est une machine qui permettait justement d'écrire mécaniquement les œuvres les plus variées.
Le premier professeur que je vis était dans une grande pièce entourée de 40 élèves. Après les premières salutations, comme il s'aperçut que je regardais attentivement une machine qui prenait presque toute la chambre, il me dit que je serais peut-être surpris d'apprendre qu'il nourrissait en ce moment un projet consistant à perfectionner les sciences spéculatives par des opérations mécaniques. Il se flattait que le monde reconnaîtrait bientôt l'utilité de ce système, et il se glorifiait d'avoir eu la plus noble pensée qui fût jamais entrée dans un cerveau humain. Chacun sait, disait-il, combien les méthodes ordinaires employées pour atteindre aux diverses connaissances sont laborieuses, et par ces inventions, la personne la plus ignorante pouvait, à un prix modéré et par un léger exercice corporel, écrire des livres philosophiques, de la poésie, des traités sur la politique, la théologie, les mathématiques, sans le secours du génie ou de l'étude. Alors, il me fit approcher du métier autour duquel étaient rangés ses disciples. Ce métier avait 20 pieds carrés, et sa superficie se composait de petits morceaux de bois, à peu près de la grosseur d'un dé, mais dont quelques-uns étaient un peu plus gros. Ils étaient liés ensemble par des fils d'archal très minces. Sur chaque face des dés étaient collés des papiers, et sur ces papiers, on avait écrit tous les mots de la langue, dans leurs différents modes, temps et déclinaisons, mais sans ordre. Le maître m'invita à regarder parce qu'il allait mettre la machine en mouvement. À son commandement, les élèves prirent chacun une des manivelles de fer au nombre de 40 qui étaient fixées le long du métier, et faisant tourner ces manivelles, ils firent changer totalement la disposition des mots. Le professeur commanda alors à 36 de ses élèves de lire tout bas les lignes à mesure qu'elles paraissaient sur le métier. Et quand il se trouvait 3 ou 4 mots de suite qui pouvaient faire partie d'une phrase, il la dictait aux 4 autres jeunes gens qui servaient de secrétaires. Ce travail fut recommencé 3 ou 4 fois, et à chaque fois, tous les mots changeaient de place. Les petits cubes étaient renversés de haut en bas. Les élèves étaient occupés 6 heures par jour à cette besogne. Et le professeur me montra plusieurs volumes grand in-folio de phrases décousues qu'il avait déjà recueillies et qu'il avait l'intention d'assortir, espérant tirer de ces riches matériaux un corps complet d'études sur toutes les sciences et tous les arts. Mais il pensait que cette entreprise serait grandement activée et arriverait à un très haut degré de perfection si le public consentait à fournir les fonds nécessaires pour établir 500 machines semblables dans le royaume et si les directeurs de ces établissements étaient obligés de contribuer en commun aux différentes collections. Je fis mes très humbles remerciements à cet illustre personnage pour les communications dont il m'avait gratifié, et je l'assurai que, si j'avais le bonheur de revoir mon pays, je lui rendrais justice en le citant parmi mes compatriotes comme l'unique auteur de cette merveilleuse machine. Je désirais prendre le dessin de sa forme et de ses divers mouvements. On peut le voir dans les planches ci jointes. Je dis encore à l'académicien que, nonobstant l'usage établi chez les savants en Europe de se voler mutuellement les inventions, ce qui laisse toujours quelques doutes sur le véritable inventeur, je prendrai de telles précautions que l'honneur de sa découverte lui resterait tout entier.
Il y a aussi des textes anciens qui ont été recueillis par Albert-Marie Schmitt, parmi lesquels figure naturellement une ballade d'un grand rhétoriqueur, puisque les grands rhétoriqueurs ont fait beaucoup de recherches dans le domaine de cette poétique complexe, de ces recherches de poétique. Et bien ensuite, il y a les travaux, proprement dit. Les premiers essais sont consacrés à ce qui a été appelé par Jean Lescure, la méthode S plus 7. C'est-à-dire que ça consiste à remplacer chaque substantif par le septième qui suit dans un dictionnaire. Les résultats sont plus ou moins bons, il y a une certaine chance, ça dépend un peu des textes, il semble qu'il y ait... Justement, il me semble que c'est un des premiers résultats de ces travaux, c'est qu'il y a des textes qui sont très bons, très maniables, qui rendent très bien des traitements de ce genre, et d'autres qui ne donnent rien du tout.
Avec quel dictionnaire ?
On peut varier les dictionnaires. Et par exemple, si on prend le gros dictionnaire, par exemple un grand dictionnaire en 7 volumes, Larousse, maintenant 10 volumes, les modifications sont moins apparente, plutôt à la fois moins apparente et plus singulière, parce que au bout de 7 substantifs, il est fréquent qu'on trouve un mot de la même famille que celui qui se trouve dans le texte original. Alors on reste toujours dans des voisinages, en quelque sorte,
oui,
du mot d'origine. Tandis que si par exemple on prend la liste des mots du français élémentaire, qui a été dressé par Guggenheim, et d'autres, qui est une liste de 1300 mots, alors là on fait des grands sauts, parce que on arrive même à changer de lettre initiale, parce que forcément il y a moins de mots et on va beaucoup plus loin. Mais on peut aussi varier de différentes façons, c'est-à-dire prendre un mot dans voir le correspondant dans un dictionnaire allemand, prendre un dictionnaire bilingue, et puis opérer sur le mot allemand, puis retrouver le mot français après. Alors là, il y a d'assez beaux textes, il y a des traitements du début de la Genèse qui ont été faits de cette façon, avec le texte de grec, des 70, et le dictionnaire de Bailly, le célèbre dictionnaire grec de Bailly, et ça donne d'assez beaux résultats. C'est la Genèse est un texte qui rend.
Se servant du dictionnaire grec comme du dictionnaire bilingue dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire en faisant français, grec.
En partant du texte grec et en comptant les 7 mots qui suivent dans le texte grec. En partant directement du texte grec. Mais là, en faisant... d'ailleurs, là, il y a une petite modification, parce qu'on n'a pas tenu compte, justement, des familles de mots, parce qu'en grec, il y a tellement de dérivations possibles, que ce serait toujours le même, on resterait toujours dans la même famille de mots si on n'excluait pas justement les mots de même famille qui suivent immédiatement enfin, dans le dictionnaire.
Oui, et dès que la famille cesse, on cherche le septième.
On cherche le premier après le mot de même famille, et ainsi de suite, jusqu'on arrive jusqu'au septième mot. Alors là, on le prend sans aucune intervention personnelle.
C'est ça, en écartant que les dérivations.
En écartant que les dérivations, puisqu'il faut éliminer enfin, ce qu'on peut appeler l'équation personnelle, il faut que ça soit fait d'une façon tout à fait objective et systématique.
Pouvez-vous donner un exemple des textes de la Genèse?
Oui, certainement. Celui-ci qui a été traité justement avec un lexique allemand me paraît assez beau.
À la ligne, le chagrin créa la chimère et le complément. Mais le complément était informe et vide. Les galettes couvraient le rafraîchissement, et la balustrade du chagrin se mouvait au-dessus des suppressions. Et le chagrin dit « que l'ascenseur soit », et l'ascenseur fut. Et le chagrin vit que l'ascenseur était bon, et le chagrin sépara l'ascenseur des galettes, et le chagrin appela l'ascenseur « danse », et les galettes « proximité ». Et il y eut un laxatif, et il y eut une lassitude. Ce fut la première danse. Le chagrin dit qu'il y ait une flamme entre les suppressions et qu'elle sépare les suppressions d'avec les suppressions. Et le chagrin fit une flamme et il sépara les suppressions qui sont au-dessus de la flamme des suppressions qui sont au-dessous. Et il en fut ainsi. Et le chagrin appela la flamme chimère. Et il y eut un laxatif et il y eut une lassitude. Ce fut la deuxième danse. Le chagrin dit que les suppressions qui sont au-dessous de la flamme se rassemblent en un seul paquet et que l'affliction paraisse, et il en fut ainsi. Le chagrin appela l'affliction complément, et il appela mésange le placement des suppressions, et le chagrin vit que cela était bon. Puis le chagrin dit que le complément fasse pousser la côte-part, les orges portant cercueil, les circonspections à abondance produisant selon leur vitesse, de l'abondance ayant en soi son cercueil sur le complément, et il en fut ainsi. Et le complément fit sortir de la côte-part des orges portant cercueil selon leur vitesse, des circonspections produisant selon leur vitesse l'abondance ayant en soi son cercueil. Et le chagrin vit que cela était bon. Et il y eut un laxatif, et il y eut une lassitude. Ce fut la troisième danse.
Naturellement, vous reconnaissez les adjectifs et les verbes qui reste identique.
Mais on se trouve exactement en présence du type de texte que le surréalisme nous a fait connaître.
Exactement, oui, on retrouve. Par exemple, en voilà un autre qui est traité aussi.
C'est le collage linguistique.
Ah oui, 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 en effet. C'est tout à fait comparable au collage pictural, sauf que au collage picturaux, avec cette exception que là, il n'y a pas d'équation personnelle.
Oui, mais le type de texte rappelle nettement certains résultats, surréalistes. Et même si on me dit que l'équation personnelle est supprimée, je peux, moi, lorsque je lis le texte et si j'ignore sa loi de composition,
exactement, oui. D'ailleurs, le texte
le rapporter à une personne.
Parfaitement. Oui, d'ailleurs, ça, je trouve que le texte que je viens de lire, là, celui, la ligne, le chagrin, etc., on pourrait croire que c'est de Benjamin Perret. Ça ressemble beaucoup, je trouve, à Benjamin Perret. Je vous en lis un autre.
À la demande, l'idole créa l'empêchement et l'expérience, mais l'expérience était informe et vide. Les confirmations couvraient le traité, et l'avarice de l'idole se mouvait au-dessus des ouates. L'idole dit que la paupière soit, et la paupière fut. Et l'idole vit que la paupière était bonne, et l'idole sépara la paupière des confirmations. L'idole appela la paupière mesure, et les confirmations preuves. Et il y eut une aventure, et il y eut une moutarde, ce fut la première mesure. L'idole dit qu'il y ait une cime entre les ouates et qu'elle sépare les ouates d'avec les ouates. Et l'idole fit une cime, et elle sépara les ouates qui sont au-dessous de la cime des ouates qui sont au-dessus. Et il en fut ainsi. L'idole appela la cime empêchement. Et il y eut une aventure et il y eut une moutarde. Ce fut la seconde mesure. L'idole dit que les ouates qui sont au-dessous de l'empêchement se rassemblent en un seul orient et que le bric-à-brac paraisse. Et il en fut ainsi. L'idole appela le bric-à-brac expérience et il appela farine la hauteur des ouates. Et l'idole vit que cela était bon. Puis l'idole dit que l'expérience fasse pousser de la rage, des arêtes portant collection, des pierres à bâtir à pommes hâtives produisant, selon leur goût, de la pomme hâtive ayant en soi sa collection sur l'expérience. Et il en fut ainsi. Et l'expérience fit sortir de la rage, des arêtes portant collection selon leur goût, et des pierres à bâtir produisant selon leur goût de la pomme hâtive ayant en soi sa collection. Et l'idole vit que cela était bon. Et il y eut une aventure, et il y eut une moutarde. Ce fut la troisième mesure.
Les auteurs de ces travaux, qui sont évidemment l'un un pseudonyme, puisque c'est C. Oliastro, et l'autre Franqueuil, sont arrêtés au troisième jour pour les différents textes cités. Ces travaux sont suivis d'une note qui développe ce que je disais tout à l'heure sur la résistance à la potentialité, c'est-à-dire les textes auxquels on applique ces méthodes et qui ne donnent rien d'intéressant à aucun point de vue, enfin ni effet surréaliste, ni effet cocasse, ni effet surprenant d'un autre ordre.
C'était le 10e volet d'une série de 12 entretiens de Raymond Queneau, menée par Georges Charbonnier, diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 6 avril 1962. Tout de suite, le 11e épisode de cette conversation.
Entretien avec Raymond Queneau, une émission de Georges Charbonnier, texte lu par Michel Bouquet.
Raymond Queneau, au cours de la précédente émission, vous avez exposé un certain nombre des travaux de Loulipo, mais je crois que beaucoup d'autres expériences ont été faites par Loulipo. Desquelles peut-on parler en particulier ?
Je vais parler d'une dont je suis responsable, qui est intitulée, enfin qui a pour but de manifester la redondance chez Stéphane Mallarmé. À vrai dire, enfin, ce n'était pas le but originel, mais il se trouve que c'est assez intéressant à ce point de vue-là, enfin, comme résultat.
Vous dites que ce n'était pas le but
originel. Non, le but originel consistait simplement à trancher les alexandrins de Mallarmé dans un sonnet, par exemple, et de ne conserver que l'extrémité rimante du poème, de chaque vers. Et avec ces sections rimantes, d'écrire un autre poème d'aspect genre haïkai, ressemblant au haïkai japonais, puisqu'on ne conservera soit que le dernier mot, ou bien les deux ou trois derniers mots de chaque vers, enfin, c'est que j'appelle là les sections rimantes. Alors, il s'agissait simplement de faire cela parce qu'il me semblait que c'était possible, justement, et que ça donnerait des poèmes qui seraient des poèmes en eux-mêmes.
Et différents et très éloignés du poème de Mallarmé, selon
bien,
vos prévisions.
Eh bien, non, justement, c'est ça, alors, le résultat.
Mais selon vos prévisions, pensez-vous...
Ah non, c'était une entreprise gratuite. Mais ensuite, il me semble que le résultat est intéressant pour l'interprétation même de Mallarmé, enfin pour l'exégèse même de Mallarmé, puisque ces petits poèmes formés avec des mots uniques ou des petits bouts de phrases formant des sortes de haïkai, redonne le sens, il me semble, enfin le sens entier du poème, et même dégage ce sens, en fait, qui, comme chacun sait, n'est pas toujours clair dans Mallarmé, et on peut voir là une sorte de méthode
d'interprétation et de compréhension du texte originel.
Est-ce que l'expérience a été faite avec d'autres poèmes que ceux de Mallarmé ?
Oui, on en a fait avec Racine, avec des hymnes traduits du bréviaire romain. Et on a essayé avec, par exemple, Victor Hugo, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Il me semble que dans un discours un peu continu en vers, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque le discours est continu. Tandis que dans un sonnet, le poète a tendance à concentrer toute la signification dans la rime, enfin dans l'extrémité du vers. Et si on ne prend que les extrémités de vers, au fond, beaucoup, même peut-être la totalité de la signification demeure, et c'est clair. Oui, mais c'est pour ça que je parle de redondance, parce qu'à ce moment-là, on peut se demander, après tout, pourquoi Stéphane Mallarmé a-t-il écrit tout le reste du poème.
Mais cela suppose tout de même qu'il y a eu une intention, un choix très particulier du poète dans ses rimes.
Je crois que dans un sonnet, comme justement le sonnet est une forme, une structure extrêmement artificielle, le poète doit se conformer aux règles très précises de cette forme, et ça l'amène justement à concentrer inconsciemment ses significations dans ses rimes qui doivent se représenter d'une certaine façon, alternées, être masculines, féminines, et ne pas revenir, etc.
Et quels sont les résultats obtenus avec les sonnets de Mallarmé ?
J'ai pris 8 sonnets de Mallarmé, enfin les plus connus, « Quand l'ombre menaça de sa fatale loi »,« Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui », »,« Victorieusement fuit le suicide beau », etc. Enfin, « Le tombeau d'Edgar Poe », »,« Le tombeau de Baudelaire ». Eh bien, par exemple, dans « Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui », ça donne ceci, « Coup des livres sous le givre, aujourd'hui pas fui, la région où vivre se délivre, l'ennui c'est lui, signe à signe mépris pris, agonie le nie. » Eh bien, c'est un poème d'ailleurs, à mon avis, ça demeure un poème, ça reste un poème, c'est un poème, et qui me semble dire à peu près la même chose que le sonnet originel, et même en dégager le sens.
Et qu'obtient-on avec les autres sonnets ?
Eh bien, par exemple, « Victorieusement fuit le suicide beau », ça donne ceci, « Le suicide beau tempête, mon absent tombeau s'apprête, même le lambeau nous fête tête sans flambeau, la tienne retienne en tant qu'enfant, tu la poses, enfant des roses. » C'est un joli poème, c'est un beau poème même. Ce qui n'empêche pas que l'autre aussi est un beau poème. Ce n'est original, c'est un très beau poème. Mais là, on a une espèce d'éclairage. Il me semble que ça donne un éclairage particulier sur le poème originel. Naturellement, je n'irai pas jusqu'à dire que, comme je viens de le dire, que c'est plus beau que le sonnet originel, mais en mettant ça simplement sur le plan de l'exégèse, il me semble qu'il y ait une contribution à la compréhension de Mallarmé, et ça n'a rien de blasphématoire vis-à-vis de Mallarmé, puisqu'au contraire, il me semble que ça ne peut qu'accroître notre admiration et notre compréhension pour ce poète.
Et quels sont les résultats que l'on obtient avec les derniers textes que vous avez retenus ?
Avec d'autres sonnets de oui. Mallarmé, par exemple, au seul souci de voyager, donne...
Voyager trouble, messager double, caravelle en est bas, nouvelle monotonement ne varie, gisement, pierrerie jusqu'au pâle Vasco.
Tu vois, il est un peu plus énigmatique. Quelquefois, on s'aperçoit que les commentateurs de Mallarmé qui prétendent qu'il y a un sens, sinon érotique, du moins grivois, dans certains poèmes de Mallarmé, ça le fait ressortir aussi. Ces purs ongles très hauts dédiant l'Euronyx, j'ajoute des point d'interrogation. C'est autorisé, le point d'interrogation.
L'euronyx, l'empadophore, le phénix, amphore, nul ptix, sonore, ostix, sonore. Un or, décor, contre une nyx. Encore, se fixe, septuor.
Celui-là est très caractéristique.
Oui, oui, je trouve que d'abord c'est presque tout le poème, et puis c'est toujours un poème, et il est presque de Mallarmé.
Anubis farouche, bouche, pubis, louche, rubis, subit le réverbère des couches. Dans les cités sans soir, se rasseoir avec frisson de Baudelaire, Utélaire, nous en périssons.
Gertrude, c'est un des plus beaux, poèmes de Mallarmé, mais le plus beau haïkai extrait de Mallarmé, parce que dans les cités sans soir, se rasseoir avec frisson de Baudelaire, Utélaire, nous en périssons, c'est très beau. Non, je ne trouvais pas. Mais l'après-midi d'un faune, ça ne donne rien du tout. C'est absolument dépourvu d'intérêt. Parce que le sens se passe à travers tous les vers. Ce genre de manipulation me paraît également manifester que dans le sonnet, il y a une sorte de condensation de la signification dans le bout, dans la rime précisément. Enfin, ce qui est peut-être dû au caractère extrêmement artificiel du sonnet. Enfin.
Oui, ce qu'on ne trouve certainement pas dans la tragédie classique.
Non, ça ne donnerait rien, la tragédie classique. D'ailleurs, il y a aussi le fait que dans la tragédie classique, les rimes sont insignifiantes. Enfin, que ce n'est pas... Ça rime parce que ça rime, mais ça n'est pas l'objet de la préoccupation du poète comme Mallarmé. Il faut dire aussi, en effet, que dans ces sonnets de Mallarmé, le poète avait des préoccupations quant à la rime extrêmement aiguës. Alors ça se manifeste forcément si on choisit les rimes.
Dans le dossier 17 que vous avez en main,
oui,
et qui expose les premiers travaux de l'Oulipo, tout au moins les travaux de l'Oulipo que l'Oulipo veut bien faire connaître, il est question de romans intersectifs.
Oui.
Qu'appelez-vous romans intersectifs ?
Eh bien, on pourrait écrire un roman intersectif en prenant deux romans, en se donnant comme règle de ne se servir que des mots communs aux deux romans, ce qui ne serait pas très difficile, enfin, si les romans sont suffisamment longs, puisqu'on aurait un vocabulaire suffisamment fourni, et ce qui pourrait être beaucoup plus difficile si on prenait des textes de préoccupations très divergentes, où le vocabulaire enfin, commun soit plus rare. On pourrait également choisir l'intersection des situations, l'intersection des personnages, c'est-à-dire voir les situations qui sont communes dans les deux romans, les personnages, enfin les types de personnages qui sont communs dans les deux romans, les décors, hein, les paysages, les descriptions, les objets, qui serait commun aux deux romans, et d'écrire un roman qui ne serait que l'utilisation de ce qui est commun à ces deux œuvres. Il y a des gens qui font ça sans le savoir. Dans certains types de romans policiers, par exemple, on voit que c'est en quelque sorte des intersections de tous les romans policiers précédents, car on retrouve les mêmes types de personnages, par exemple, les mêmes situations, les mêmes scotch, les mêmes bagarres. On a l'impression que chaque nouveau roman policier ou soi-disant tel n'est qu'une manipulation, enfin des romans précédents.
Mais là, il y a intersection d'un grand nombre de romans dans le cas du roman policier.
Oui,
il n'y a pas intersection de deux œuvres. Mais est-ce que l'on ne pourrait pas être amené à se demander si l'intersection n'est pas un des modes de transmission littéraire normale d'une œuvre à l'autre dans le cours de l'histoire, je veux dire. Est-ce que ce que l'on appelle les influences, d'habitude, ne se manifesterait pas par l'intermédiaire de l'intersection et ne serait pas déterminable logiquement?
Peut-être. Jacques Duchâteau et Benz, qui ont entrepris ce travail, ils ont choisi des œuvres à la fois, d'abord courtes, parce qu'il nous faudrait des machines pour faire le travail. Si les romans étaient un peu substantiels, un peu longs, ils ont choisi des œuvres courtes d'une même époque et tout de même assez différentes. Enfin, on a choisi Cécile, Benjamin Constant, les deux maîtresses de Musset et Sylvie de Nerval. Les résultats sont encore inconnus.
Et suivant quelles règles, en pareil cas, écrit-on le roman intersectif? Car tout ce que vous avez dit du roman intersectif concernait son matériau.
Oui, mais ça ne demeure jamais que du matériau, en effet.
Il n'y a pas de règles d'organisation dans ce cas.
Non, c'est pour fournir des formes, des structures, disons, pour employer un mot savant. Ça laisse absolument libre les auteurs du dit roman intersectif. Quant au but, ils pourraient aussi bien écrire un roman policier qu'un texte surréaliste, qu'un essai philosophique, etc.
C'est on retient un certain nombre
de création, voilà. Ça, oui.
Alors, oui, la création n'est pas modifiée dans ce cas du tout.
Non, absolument pas. Ce qui est fourni sont des contraintes, comme dans le sonnet, des contraintes sont fournies par toutes les règles bien connues du sonnet. Et on a écrit des sonnets de toutes les façons. On en a écrit, comme Mallarmé, Éluard a écrit des sonnets, qui étaient surréalistes. Ça ne change rien à la création, ça on peut insérer. Alors on ferait un roman en utilisant les intersections de personnages, de situations, etc., des trois romans que je citais tout à l'heure. Le nouveau roman, ça pourrait être d'un style Butor, ou d'un style Céline, ou d'un style ou d'un autre, ou d'un style original, pourquoi pas. Il pourrait être original.
Le dossier 17 présente une littérature dite potentielle. Que faut-il entendre par littérature potentielle et qu'est-ce que la potentialité? Car à plusieurs reprises dans le courant de ces entretiens, vous avez parlé de potentialité, de résistance à la potentialité.
Oui, oui.
Comment pourrait-on définir ces deux notions?
L'association du mot littérature et du mot potentiel, je crois que là, il ne faut pas comprendre potentiel comme un attribut du mot littérature. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la littérature potentielle comme une partie, enfin, de la littérature. Il y aurait une littérature qui serait de différentes façons, puis une qui serait potentielle. Je crois que le mot, là, potentiel, porte sur la nature même de la littérature. C'est-à-dire que, au fond, il ne s'agit peut-être moins de littérature proprement dite que de fournir des matériaux, des formes, au bon usage qu'on peut faire de la littérature. Nous appelons littérature potentielle la recherche de formes, de structures, pour employer ce mot, enfin, qui est un peu savant, de structures qui nouvelles, et qui ensuite pourront être utilisées par les écrivains de la façon qu'il leur plaira. Alors, par exemple, s'il y aurait eu des ouvrages de littérature potentielle dans le temps jadis, ils auraient pu, par exemple, inventer, proposer aux écrivains de leur temps, par exemple l'Alexandrin, ou le sonnet, ou la tragédie en cinq actes, ou avec unité, avec les trois unités. Et alors, tout ça, c'est un peu, je ne dirais pas que ce soit périmé, mais enfin, ce n'est plus très vivant. Alors, nous pensons qu'il serait peut-être utile et agréable aux écrivains de leur fournir des nouvelles formes, des nouvelles structures qui, à l'usage, se montreront plus ou moins intéressantes. et qui, au premier abord, pourront peut-être paraître aussi assez artificielles, comme rien de plus artificiel que la tragédie en cinq actes avec les trois unités, rien de plus artificiel que le sonnet.
Est-ce que par potentiel, je dois donc comprendre susceptible d'engendrer et d'engendrer de façon plus ou moins riche?
De créer, d'inventer, de découvrir, mais pas d'engendrer.
Et d'aider à la naissance ou non?
Non, non. De proposer aux écrivains des formes. Naturellement, il est probable que comme
ah ce... bon, sans préjuger de la... sans dire à l'avance, ceci paraît plus riche que ça.
Ah oui, non, ça on ne sait pas. On ne peut... ça, il me paraît difficile de le savoir. Enfin, par exemple, la plupart des formes fixes de la poésie française sont tombées en désuétude. Le sonnet est resté vivant jusqu'à ces derniers temps. Tandis que d'autres formes, enfin le rondeau, ça ne s'écrit plus depuis belle lurette. Ces formes peuvent être formées de toutes pièces, enfin a priori en quelque sorte, ou bien alors elles peuvent être dégagées de textes précédents.
Vous avez entendu Entretien avec Raymond Queneau, une émission de Georges Charbonnier, texte lu par Michel Bouquet.
C'était les entretiens de Raymond Queneau avec Georges Charbonnier, 9e, 10e et 11e volet d'une série de 12 émissions, première diffusion sur France 3 Nationale les 30 mars, 9 et 13 avril 1962. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.